Étude sur Jeanne d'Arc, écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jaugé. Chapitre 3. Attaque de Paris. La Pucelle est repoussée. Ses voix lui annoncent sa captivité. Elle est prise à Compiègne. Son procès devant l'autorité diocésaine et devant l'Inquisition. Le jour même du sacre, au milieu de l'enthousiasme universel, il fut décidé qu'on marcherait sur Paris. La Pucelle ne faisait doute qu'elle ne le mît en brief entre les mains du roi, comme elle l'avait dit dans sa lettre aux habitants de Troyes. Mais Charles retomba bientôt dans ses indécisions et ne put se résoudre à suivre entièrement les conseils de Jeanne. Au lieu de marcher directement sur Paris, il voulut préalablement s'assurer de Laon, de Soissons, de Château-Thierry et de plusieurs autres villes. Quelques-unes seulement de ces places durent être emportées de vive force. Les autres chassèrent d'elles-mêmes la garnison anglaise et appelèrent le roi dans leurs murs. Après ces succès, Charles conclut une trêve de 15 jours, à l'expiration de laquelle il se dirigea enfin sur Paris. Les populations accouraient en foule sur son passage et sur celui de Jeanne, criant « Noël! Noël! » et chantant « Te Deum Laudamus » et dévotes antiennes versaient et responses et faisant merveilleuses fêtes, regardant surtout smoult la Pucelle, laquelle, considérant leur maintien, plourait moult fort. Et disait à l'archevêque de Reims et au comte de Dunois, « Ah, que voici un bon peuple, et n'en vis jamais un tel, et plût à Dieu que je fusse si heureuse, lorsque je finirai mes jours, que je puisse être enterrée en ce pays. » « Ô Jeanne, dit l'archevêque de Reims, en quel lieu avez-vous espérance de mourir ? » Auquel elle répondit, où il plaira à Dieu, car je ne suis non plus que vous assuré du lieu ni de l'heure, et voudrais que ce fût le plaisir de Dieu, mon Créateur, que je m'en retournasse maintenant, en laissant les armes, pour aller servir mon père et ma mère, en gardant les brebis avec ma sœur et mes frères, lesquels se réjouiraient fort de ma venue. » Telle était la réputation de Jeanne, qu'on vit dans cette même année, 1429, le comte d'Armagnac l'a consulté au sujet du schisme qui divisait alors l'Église. Ce seigneur lui demanda par lettre quel était des trois prétendants au pontificat celui auquel on devait obéir. Elle répondit qu'étant trop occupée au fait de la guerre, elle ne pouvait présentement satisfaire à sa demande, mais que plus tard, quand elle serait à Paris, elle lui ferait savoir ce qu'il fallait penser d'après les révélations de son conseil. Le roi ne se hâtait cependant pas de reprendre sa capitale. On arriva à Saint-Denis que le 7 du mois d'août, le 8 on attaqua Paris. Jeanne déclara plus tard qu'en ce moment, elle était allée au combat sans avoir eu le conseil ordinaire de ses voix. Ceux de Paris, n'osant faire aucune sortie contre les assiégeants, la Pucelle délibéra de les assaillir jusqu'au pied de leur rempart. Déjà, après avoir franchi le premier fossé, elle sondait avec sa lance la profondeur du second, quand un coup d'arbalète lui perça la cuisse. Elle tomba sur le talus, mais ne quitta point le combat. Elle criait, au contraire, d'apporter fagots et bois pour remplir le fossé. Elle ne s'en voulait retourner ne retraire, dit un historien. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page, portant le numéro 1, qui dit ce qui suit. L'historien du siège d'Orléans. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Elle ne s'en voulait retourner, ne retraire, dit un historien, en aucune manière pour prière et requête que lui fissent plusieurs, jusqu'à ce que le duc d'Alençon l'envoya Caire chercher et la fit retraire, et toute l'armée. Revenue à Saint-Denis, elle offrit au patron de la ville, qui est, disait-elle, le trompette des Français, un blanc harnois entier à un homme d'armes et une épée qu'elle avait gagnée devant Paris. Elle voulait rester à Saint-Denis, mais on l'emmena, suivant ses propres paroles, contre le vouloir du Seigneur même. Et à très grand regret, elle se mit en compagnie du roi. De Saint-Denis, Charles se rendit à Lagny-sur-Marne. À son arrivée dans cette ville, on vint demander à Jeanne d'aller se joindre aux jeunes filles qui priaient devant l'image de Notre-Dame pour un enfant de 3 jours mort sans baptême. Elle y alla, pria avec les autres, et bientôt la vie reparut dans l'enfant. Il cria 3 fois, fut baptisé, puis mourut. « Et cependant, dit Jeanne dans son procès, il y avait 3 jours quand l'enfant n'y était apparu vie et était noir comme sa cotte, vêtement. » À Bourges, où elle salua la reine, Jeanne logea chez une respectable demoiselle appelée Marguerite de Tourade. Voici quelle était à peu près sa manière de vivre à cette époque. 2 points. Elle mangeait, buvait et couchait chez son hôtesse. Presque toujours couchait avec elle et allait en sa compagnie à l'église, à matines et aux autres heures du jour et de la nuit. Jeanne se plaignait fort de ce que certaines bonnes femmes de la ville venaient en sa maison et y portaient des paternostres et autres marques, afin qu'elle les touchât. « Touchez-les vous-même, leur disait-elle, car elles seront aussi bonnes de votre touchement que du mien. » Elle s'était aussi fâchée plusieurs fois auparavant de ce qu'on la visitait, et semblait qu'on la voulût adorer, ce qu'elle avait fort à déplaisir. Elle aimait mieux être seule et solitaire qu'en la compagnie des hommes, sinon quand il fallait combattre. 3 ou 4 fois la nuit, elle se mettait à genoux et priait Dieu pour la prospérité du roi et l'accomplissement de sa légation. Lorsqu'elle était à l'armée, elle avait cette coutume qu'à l'heure de vêpres ou sur le point de la nuit, tous les jours du monde, elle se retirait à l'église, faisait sonner les cloches environ 1 demi-heure et appelait les religieux mendiants qui suivaient l'armée, puis, se mettant en oraison, elle leur faisait chanter une antienne de la Vierge Marie. Elle se courrouçait fort quand elle entendait jurer et reprenait aigrement les gens de guerre qui blasphémaient. La vue des femmes perdues excitait en elle un mouvement d'indignation qu'elle ne pouvait toujours réprimer, et plus d'une fois, elle les poursuivit l'épée à la main. Elle avait grand soin de sa réputation. Ainsi, depuis son arrivée en Touraine, elle eut toujours une femme pour compagne de lit. Si elle ne pouvait avoir de femme, elle couchait avec des jeunes filles, mais ne voulait pas coucher avec de vieilles femmes. À la guerre, elle couchait vêtue et armée. Elle était fort dévote, aimait et craignait Dieu, faisait plusieurs abstinences, jeûnait les vendredis et le carême, et restait parfois 24 heures sans manger. Elle ne faisait que 2 repas le jour quand elle ne jeûnait pas. Elle hantait l'église, se confessait souvent, entendait la messe et recevait fréquemment le Saint-Sacrement de l'autel, quelquefois en habit d'homme, mais non armée. Elle était charitable et aimait les pauvres gens des champs qui venaient volontiers vers elle. Souvent, elle donnait de l'argent pour l'honneur de Dieu et des chapeaux de fleurs aux images de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. Elle leur faisait la révérence le plus qu'elle pouvait, sachant qu'elles sont au royaume de paradis. Jeanne resta plusieurs semaines avec le roi, très désolée de ce qu'il n'entreprenait à conquêter ses places sur ses ennemis. On lui permit cependant d'aller avec le seigneur d'Albret assiéger Saint-Pierre-le-Moutier. Les assiégés firent bonne défense, et quand on donna l'assaut, les Français furent repoussés. Jeanne resta presque seule au pied du mur. D'Aulon, qui s'en aperçut, la crut en danger, courut à elle et lui demanda pourquoi elle ne se retirait comme les autres. Elle lui répondit qu'elle n'était point seule et que, pour secours, elle avait en sa compagnie 50 000 de ses gens et que Dilek, de là, ne se partirait qu'elle n'eût pris la ville. D'Aulon assure qu'en ce moment, elle n'avait pas avec elle plus de 4 ou 5 hommes. Il la pressa donc de nouveau, mais elle cria « Au fagot, au clé, tout le monde !» Et incontinent, la ville fut prise presque sans résistance. Les gendarmes et soldats voulaient piller l'église, mais elle s'y opposa et ne laissa pas enlever la moindre chose. On l'envoya ensuite assiéger la Charité-sur-Loire. Ses voix se taisaient. Elle fut repoussée. C'est à ce moment que le roi lui donna des lettres de noblesse, pour elle, pour ses parents, ses frères et toute leur postérité mâle et femelle. Mais ce fut, dit-elle, sans sa requête et sans révélation de ses voix. Dans les premiers mois de l'année 1430, elle se rendit avec sa compagnie dans l'île de France, laissant le roi à Sully-sur-Loire. Un jour qu'elle se trouvait sur les fossés de Melun, dans la semaine de Pâques, Sainte Catherine et Sainte Marguerite lui annoncèrent qu'elle serait prise avant que fût la Saint-Jean et qu'ainsi fallait qu'il fût fait. Qu'elle ne s'esbaillît, mais printe tout en gré, et que Dieu lui aiderait. Depuis Melun, ses voix ne cessèrent de lui répéter la triste prophétie de sa captivité. Deux points. Chaque jour, elle les requérait que quand elle serait prise, elle fût tôt morte, sans un travail de prison. Mais toujours, elle reçut la même réponse. Deux points. Qu'elle prenne tout en gré, et qu'ainsi fallait faire. Elle leur demanda encore le lieu et l'heure de sa prise, mais sur ce point aussi, ses voix se turent. Si Jeanne eût su le lieu et l'heure, elle ne fût point allée à Compiègne. C'est elle-même qui l'assure dans son procès. Depuis ce moment, Jeanne se rapporta plus du fait de la guerre à la volonté des capitaines. Elle ne leur découvrit cependant point la révélation qu'elle avait eue. Sa dernière victoire fut celle qu'elle remporta sur une compagnie franco-bourguignonne aux ordres de Franquet d'Arras. Après ce beau fait d'armes, elle rentra à Compiègne avec 300 ou 400 hommes d'élite qu'elle amenait au secours de ses bons amis de cette ville. Elle fut prise dans une sortie par les gens de M. de Luxembourg, le 24 mai, et ainsi se trouva vérifiée la prédiction de ses voix. Les vainqueurs étaient ivres de joie. Ils faisaient plus grands cris et resbaudissements, dit Monstrelet, que s'ils eussent pris une armée. À Paris, on chanta un Te Deum à Notre-Dame. Après une entrevue avec le duc de Bourgogne, chef sous la dépendance duquel se trouvait Jean de Luxembourg, la pucelle fut enfermée au château de Beaulieu. Déjà, ses ennemis commençaient les préparatifs de son procès. Le 26 mai, le lendemain de l'arrivée de la grande nouvelle à Paris, l'université de cette ville écrivit à Philippe, duc de Bourgogne, le priant de mettre Jeanne Esmain de l'évêque de Beauvais, maître Pierre Cochon, en la juridiction spirituelle duquel elle avait été prise, pour lui faire faire son procès. Elle écrivit le 27 à Jean de Luxembourg d'autres lettres tendant à la même fin, et plus tard, le 21 novembre, ce fut encore elle qui invita le roi d'Angleterre à livrer Jeanne à la justice ecclésiastique. Frère Martin Vincent, vicaire général de l'inquisiteur de la foi en France, pria le duc de Bourgogne, par lettre du 29 mai, et lui enjoignit, sous les peines de droit, de lui envoyer certaines femmes nommées Jeanne, soupçonnées de plusieurs crimes, erreurs et hérésies, pour ester à droit, comparaître, par devant le promoteur de la Sainte Inquisition. L'évêque de Beauvais somma le duc de Bourgogne et Jean de Luxembourg à même fin. Puis le roi d'Angleterre, ayant, au prix de 10 000 francs, obtenu Jeanne de ceux qui l'avaient prise, ordonna par lettre datée de Rouen, 13 janvier 1431, que l'évêque de Beauvais lui fit son procès. Quelques jours auparavant, 27 décembre, le chapitre de Rouen avait baillé territoire à Cochon pour ledit procès. Pendant ces démarches, Jeanne avait été transférée du château de Beaulieu à celui de Beaurevoir, en Vermandois. Là, on lui dit que Compiègne allait être mise à feu et à sang, et d'autre part, elle avait appris qu'elle était vendue aux Anglais. Dans les angoisses où la plongèrent ces nouvelles, elle sauta du donjon, et le lendemain, on la trouva évanouie au pied de la tour. Elle se remit de cette chute en 2 ou 3 jours. Lorsqu'elle se précipita ainsi du haut des murs de sa prison, elle ne cherchait pas à se tuer, mais elle se recommanda à Dieu et à Notre-Dame, voulant seulement être délivrée des Anglais. Dans cette circonstance, Jeanne agit contre le commandement de ses voix. Elle s'en excusa plus tard, disant qu'elle ne s'en put tenir. Quand les saintes qui la protégeaient virent sa nécessité, elles lui secoururent la vie et la gardèrent de se tuer. Elle fut ensuite reconfortée par sainte Catherine, qui lui dit de se confesser et de requérir merci à Dieu de ce qu'elle avait fait, lui annonçant en outre que sans faute, ceux de Compiègne auraient secours avant la Saint-Martin d'hiver. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. Selon la prédiction de sainte Catherine, Compiègne fut délivré par le comte de Vendôme et le maréchal de Boussac, 15 jours avant la Saint-Martin. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Elle fut ensuite reconfortée par sainte Catherine, qui lui dit de se confesser et de requérir merci à Dieu de ce qu'elle avait fait, lui annonçant, en outre, que sans faute, ceux de Compiègne auraient secours avant la Saint-Martin d'hiver. Alors, elle se prit à revenir et fut tantôt, bientôt, guérie. Jeanne, après un séjour de 4 mois, au château de Beaurevoir, fut transférée à Arras, puis au Crotoy, et enfin à Rouen, où allait s'ouvrir son procès. À Rouen, Elle fut mise dans une cage de fer, attachée par le cou, les pieds et les mains. Elle resta dans ce piteux état jusqu'au commencement de son procès. Les trois Anglais chargés de sa garde avaient défense de la laisser parler à qui que ce fût. C'est cependant vers cette époque que le comte de Ligny alla lui rendre visite dans sa prison et lui dit qu'il était venu pour la mettre à rançon. « Je sais bien, répondit-elle, que vous n'en avez ni la volonté, ni le pouvoir. » Puis elle ajouta, « Je sais bien aussi que les Anglais me feront mourir, croyant qu'après ma mort ils gagneront le royaume de France. Mais quand ils seraient 100 000 plus qu'ils ne sont à présent, ils n'auraient point le royaume de France. » Les ennemis, pendant ce temps, poussaient l'affaire avec ardeur. L'information préparatoire fut terminée le 19 février, et Jeanne citée à comparaître le 21. À ce moment, on la changea de prison. Une chaîne de fer attachée à un gros morceau de bois fut rivée à ses pieds, et elle fut gardée par 5 Anglais, dont 3 passaient la nuit avec elle. Les 3 clés de sa prison était l'une entre les mains du cardinal Henri d'Angleterre, l'autre entre celles de l'inquisiteur, et le promoteur de l'officialité possédait la troisième. Jeanne ne quitta cette prison que pour aller au bûcher, quoiqu'elle ait bien des fois réclamé d'être menée « es prisons ecclésiastiques », comme c'était son droit. Ces juges furent d'abord le seul cochon, puis à partir du 13 mars, frère Jean Magistri, vice-inquisiteur de la foi. Ils étaient assistés par Gilles, abbé de Fécamp, Nicolas, abbé de Jumièges, et par plusieurs docteurs de l'Université de Paris. Chacun d'eux recevait pour chaque audience 20 sous tournois, environ 40 francs d'aujourd'hui, et quiconque se permettait de dire quelque bien de Jeanne était jeté en prison ou chassé. Jeanne, citée à comparaître, avait demandé que parmi ses juges, il y en eût autant du parti du roi de France que du parti du roi d'Angleterre, mais on eut garde de faire droit à sa réclamation. On la somma de faire serment qu'elle répondrait selon la vérité à toutes les interrogations qui lui seraient posées. Elle dit qu'elle jurerait volontiers, touchant ses pères et mères, et de ce qu'elle avait fait après s'être mise en chemin pour venir en France. Mais des révélations qui lui avaient été faites de la part de Dieu, elle ne les avait jamais révélées ou dites à personne, sinon à Charles seul. Il ne les révélerait pas quand on lui devrait trancher la tête, car son conseil secret lui avait défendu de les découvrir. À cette condition, les deux mains posées sur le missel, elle jura de dire la vérité. Les interrogatoires duraient d'ordinaire 4 heures le matin et 2 ou 3 heures le soir, et telle fut la haineuse habileté déployé par ces juges vendus aux Anglais, qu'un grand docteur, disent les témoins du second procès, eût pu difficilement échapper à leurs arguments. Mais Jeanne, inspirée par ses voix, mit dans ses réponses tant de prudence et de sagacité qu'elle réduisit plus d'une fois ses interrogateurs au silence. Les questions portèrent principalement sur ses voix, sur le secret qui était entre elle et le roi, sur sa soumission à l'Église et sur les habits d'homme qu'elle portait. Elle soutint constamment que ses voix venaient de Dieu, refusa de découvrir le secret du roi, en appela au pape, et déclara qu'elle portait habit d'homme par ordonnance de ses voix. Toutefois, sa fermeté parut se démentir un instant. Accablé par les horreurs d'une longue prison et effrayé à la vue du bourreau qui attendait avec sa charrette au pied de l'échafaud l'instant de la conduire au bûcher, Jeanne signa une cédule d'abjuration dont elle entendait à peine le sens. De retour à sa prison, ses voix se firent entendre pour lui reprocher sa faiblesse, et comme nous le verrons, elle la répara dignement. Durant ce long procès, Jeanne, malgré l'effroi que lui inspirait sa mort prochaine, montra une piété et une résignation angélique. Dans une maladie qui faillit la ravir à ses bourreaux, elle requérait seulement d'avoir confession et son sauveur et d'être inhumée en terre sainte. Ses voix lui annonçaient chaque jour qu'elle serait délivrée par grande victoire et lui tenait ce langage. Deux points. Prends tout en gré et ne te chaille, ne t'inquiète pas, de ton martyr, car tu t'en viendras enfin au royaume de paradis. Ce que ses voix appellent martyr, c'est ce que Jeanne souffre en prison. Elle ne sait si elle en souffrira un plus grand, mais s'en attend à notre Seigneur. Elle croit fermement que ses voix lui ont dit qu'elle sera sauvée, et en est aussi assurée, comme si elle l'était déjà, et tient cela pour un grand trésor. Mais quant à la grande victoire dont lui parlaient ses voix, elle ne savait au juste ce qu'il en fallait penser, et gardait encore quelque espoir d'échapper aux Anglais. C'est dans ce mélange de crainte et d'espérance qu'elle s'écriait, deux points, « Rouen, Rouen, mourrai-je ici ?» Sa rétractation avait, pour le moment, mis ses juges dans l'impossibilité de la condamner au feu. Les principaux Anglais s'en indignèrent contre l'évêque de Beauvais, les docteurs et autres assistants au procès. Une fois même, ils levèrent leurs épées pour les frapper, disant qu'ils ne gagnaient pas leur argent. Mais Cochon n'était pas à bout de ressources. Jeanne avait promis de quitter les habits d'homme. Elle les quitta, en effet, mais ses gardes lui enlevèrent pendant la nuit ses habits de femme et refusèrent impitoyablement de les lui rendre. Elle se vit donc obligée de reprendre ses habits d'homme, que du reste elle dut toujours garder depuis ce moment pour défendre sa pudeur. On se servit de ce prétexte pour la déclarer relapse. Au reste, elle affirmait de nouveau l'origine divine de ses voix. Avant l'abjuration qu'on lui extorqua, on l'avait déclarée, de l'avis de l'Université de Paris, sorcière, idolâtre, apostate, sentant l'hérésie, séditieuse. Après sa rétractation, on la condamna comme étant retombée dans ses errements. C'était le 29 mai 1431. L'exécution eut lieu le lendemain. Elle fut confessée et administrée avec la permission de l'évêque de Beauvais. Après la confession, frère Martin, l'advenu, tenant l'hostie entre ses mains, lui dit « Croyez-vous qu'ici soit le corps de Jésus-Christ ?»« Oui, répondit-elle. Et lui seul qui peut me délivrer, et je demande qu'il me soit administré. » Elle reçut alors son sauveur fort dévotement et avec pleurs. Elle fut ensuite menée au vieux marché. À côté d'elle étaient frère Martin l'Advenu et Jean Massieu. Plus de 800 hommes d'armes, portant haches et glaives, l'accompagnaient. En chemin, elle faisait de fort pitoyables lamentations, recommandant son âme à Dieu et à ses saints. Ce jour-là, il y avait 3 échafauds sur le vieux marché de Rouen, l'un pour les juges, l'autre pour les prélats, et le dernier
où était le bois préparé. Jeanne monta sur l'échafaud des juges et y écouta paisiblement et avec grande constance la prédication dernière faite par Nicolas Midi. Puis Cochon se leva et lut la sentence. Tu es revenu aux erreurs et aux crimes que tu avais abjurés. Nous te déclarons retombé en la sentence d'excommunication que tu avais encourue. Nous te retranchons comme un membre pourri de l'unité de l'Église et te délaissons à la puissance séculière, la priant d'adoucir son jugement envers toi quant à la mort et à la mutilation des membres. Ce qu'ayant entendu, elle se mit à genoux et fit ses oraisons à Dieu en grande dévotion et demanda une croix. Lors, un certain Anglais lui en fit une petite de quelques bâtons. Elle la baisa et la mit dans son sein. Elle envoya aussi quérir la croix de la paroisse et l'embrassa en pleurant et en se recommandant à Dieu, à la Vierge Marie, à Saint-Michel, à Sainte-Catherine, à Sainte-Marguerite et à tous les saints. Puis elle baisa de rechef cette croix, salua tous les assistants, leur pardonna et leur demanda de prier Dieu pour elle, qu'ils fussent de son parti ou de l'autre. Elle requit aussi tous les prêtres qui étaient là présents que chacun d'eux lui donna une messe. Elle descendit ensuite de l'échafaud des juges et monta sur le bûcher. Elle avait prié frère Martin, qui, avec Isambard, l'accompagna jusqu'au bout, de tenir le crucifix élevé tout droit devant ses yeux, jusqu'au pas de la mort. Quand elle vit mettre le feu au bois, elle commença à crier fort haut, « Jésus !» Et étant au milieu des flammes, elle eut toujours le nom de Jésus en sa bouche. Elle assurait que ses voix venaient de Dieu, qu'elle ne l'avait pas déçu. Ici, le lecteur bénévole voit une note de bas de page, portant le numéro 1, qui dit ce qui suit. Témoignage d'Isambard au procès de réhabilitation. Retour au texte de l'abbé Jaugé. Elle assurait que ses voix venaient de Dieu, qu'elle ne l'avait pas déçu, qu'elle espérait aller ce jour-là en paradis et qu'elle n'était point hérétique ni schismatique. Et ainsi, elle finit sa vie en bonne et vraie catholique. À ce spectacle, plusieurs des assistants, qui étaient plus de 10 000, fondirent en larmes, disant « C'est grand pitié !» Telle fut la vie, et telle fut la mort de Jeanne d'Arc. Mais l'injustice dont elle fut victime s'étendit au-delà du tombeau. Après avoir terminé son existence mortelle sur un bûcher, elle n'obtint même pas de la postérité justice entière. Son nom est resté comme un signe de contradiction, et sa gloire est encore couverte de bien des nuages. À l'exemple de ses juges, on a attaqué son inspiration surnaturelle, sa sainteté chrétienne et sa soumission à l'Église, et d'autre part, l'Église dans laquelle elle a vécu, qu'elle a tant aimée, dont les secours l'ont fortifiée dans son martyre, a été injuriée et calomniée par ceux qui se sont portés les défenseurs de Jeanne. Je vais essayer de rétablir la vérité sur ces quatre points, en démontrant, dans les chapitres suivants, deux points, la nature miraculeuse de l'inspiration de Jeanne, sa sainteté chrétienne, sa soumission à l'Église, et en repoussant les attaques dont l'Église a été l'objet à l'occasion de cette déplorable affaire. Fin du chapitre 3 de l'étude sur Jeanne d'Arc. écrite par l'abbé Jean-Baptiste Jauger.